Livre troisième, La faute de l'abbé Mouret, chapitre 14. À cette heure, Albine dans le paradou rôdait encore, traînant l'agonie muette d'une bête blessée. Elle ne pleurait plus, elle avait un visage blanc traversé au front d'un grand pli. Pourquoi donc souffrait-elle toute cette mort? De quelle faute était-elle coupable pour que brusquement, le jardin ne lui tint plus les promesses qu'il lui avait faites depuis l'enfance? Et elle s'interrogeait, allant devant elle, sans voir les allées où l'ombre coulait peu à peu. Pourtant, elle avait toujours obéi aux arbres. Elle ne se souvenait pas d'avoir cassé une fleur. Elle était restée là, fille aimée des verdures, les écoutant avec soumission, s'abandonnant à elle, pleine de foi dans les bonheurs qu'elle lui réservait. Lorsque, au dernier jour, le paradou lui avait crié de se coucher sous l'arbre géant, elle s'était couchée, elle avait ouvert les bras, répétant la leçon soufflée par les herbes. Alors, si elle ne trouvait rien à se reprocher, c'était donc le jardin qui la trahissait, qui la torturait, pour la seule joie de la voir souffrir. Elle s'arrêta, elle regarda autour d'elle. Les grandes masses sombres des feuillages gardaient un silence recueilli. Les sentiers où les murs noirs se bâtissaient devenaient des impasses de ténèbres. Les nappes de gazon au loin endormaient les vents qui les effleuraient. Et elle tendit les mains désespérément. Elle eut un cri de protestation. Cela ne pouvait pas finir ainsi. Mais sa voix s'étouffa sous les arbres silencieux. Trois fois elle conjura le paradou de répondre sans qu'une explication lui vînt des hautes branches, sans qu'une seule feuille la prît en pitié. Puis, quand elle se fut remise à rôder, elle se sentit marcher dans la fatalité de l'hiver. Maintenant qu'elle ne questionnait plus la terre en créature révoltée, elle entendait une voix basse courant au ras du sol, la voix d'adieu des plantes qui se souhaitaient une mort heureuse. Avoir bu le soleil de toute une saison, avoir vécu toujours en fleurs, s'être exhalée dans un parfum continu, puis s'en aller au premier tourment avec l'espoir de repousser quelque part, n'était-ce pas une vie assez longue? Une vie bien remplie qui gâterait un entêtement à vivre davantage. Comment devait être bien morte, ayant une nuit sans fin devant soi pour songer à la courte journée vécue pour en fixer éternellement les joies fugitives. Elle s'arrêta de nouveau, mais elle ne protesta plus au milieu du grand recueillement du paradou. Elle croyait comprendre à cette heure. Sans doute le jardin lui ménageait la mort comme une jouissance suprême. C'était à la mort qu'il l'avait conduite d'une si tendre façon. Après l'amour, il n'y avait plus que la mort. Et jamais le jardin ne l'avait tant aimée. Elle s'était montrée ingrate en l'accusant. Elle restait sa fille la plus chère. Les feuillages silencieux, les sentiers barrés de ténèbres, les pelouses où le vent s'assoupissait, ne se taisaient que pour l'inviter à la joie d'un long silence. Il la voulait avec eux dans le repos du froid. Ils rêvaient de l'emporter, roulée parmi leurs feuilles sèches, les yeux glacés comme l'eau des sources, les membres raidis comme les branches nues, le sang dormant le sommeil de la sève. Elles vivraient leur existence jusqu'au bout, jusqu'à leur mort. Peut-être avait-il déjà résolu qu'à la saison prochaine elle serait un rosier de parterre, un sol blond des prairies ou un jeune bouleau de la forêt. C'était la grande loi de la vie, elle allait mourir. Alors, une dernière fois, elle reprit sa course à travers le jardin en quête de la mort. Quelle plante odorante avait besoin de ses cheveux pour accroître le parfum de ses feuilles? Quelle fleur lui demandait le don de sa peau de satin, la blancheur pure de ses bras, la laque tendre de sa gorge? À quel arbuste malade pouvait-elle offrir son jeune sang? Elle aurait voulu être utile aux herbes qui végétaient sur le bord des allées, se tuer là pour qu'une verdure poussât d'elle, superbe, grasse, pleine d'oiseaux en mai et ardemment caressée du soleil. Mais le paradou resta muet longtemps encore, ne se décidant pas à lui confier dans quel dernier baiser il l'emporterait. Elle dut retourner partout, refaire le pèlerinage de ses promenades. La nuit était presque entièrement tombée et il lui semblait qu'elle entrait peu à peu dans la terre. Elle monta aux grandes roches, les interrogeant, leur demandant si c'était sur leur lit de cailloux qu'il lui fallait expirer. Elle traversa la forêt, attendant, avec un désir qui ralentissait sa marche, que quelque chaîne s'écroula et l'ensevelit dans la majesté de sa chute. Elle longea les rivières des prairies, se penchant presque à chaque pas, regardant au fond des eaux si une couche ne lui était pas préparée parmi les nénuphars. Nulle part la mort ne l'appelait, ni lui tendait ses mains fraîches. Cependant, elle ne se trompait point. C'était bien le paradou qui allait lui apprendre à mourir, comme il lui avait appris à aimer. Elle recommença à battre les buissons, plus affamée qu'aux matinées tièdes où elle cherchait l'amour. Et tout d'un coup, au moment où elle arrivait au parterre, elle surprit la mort dans les parfums du soir. Elle courut, elle eut un rire de volupté. Elle devait mourir avec les fleurs. D'abord, elle courut au bois de roses. Là, dans la dernière lueur du crépuscule, elle fouilla les massifs. Elle cueillit toutes les roses qui s'alanguissaient aux approches de l'hiver. Elle les cueillait à terre, sans se soucier des épines. Elle les cueillait devant elle, des deux mains. Elle les cueillait au-dessus d'elle, se haussant sur les pieds, ployant les arbustes. Une telle hâte la poussait qu'elle cassait des branches, elle qui avait le respect des moindres brins d'herbe. Bientôt, elle eut des roses plein les bras, un fardeau de roses sous lequel elle chancelait. Puis, elle rentra au pavillon ayant dépouillé le bois, emportant jusqu'aux pétales tombés. Et quand elle eut laissé glisser sa charge de roses sur le carreau de la chambre au plafond bleu, elle redescendit dans le parterre. Alors elle chercha les violettes. Elle en faisait des bouquets énormes qu'elle serrait un à un contre sa poitrine. Ensuite, elle chercha les œillets, coupant tout jusqu'au bouton, liant des gerbes géantes d'œillets blancs pareilles à des jattes de lait, des gerbes géantes d'œillets rouges pareilles à des jattes de sang. Et elle chercha encore les quarantaines, les belles de nuit, les héliotropes, les lys. Elle prenait à poignée les dernières tiges épanouies des quarantaines dont elle froissait sans pitié les ruches de satin. Elle dévastait les corbeilles de belles de nuit, ouvertes à peine à l'air du soir. Elle fauchait le champ des héliotropes, ramassant en tas sa moisson de fleurs. Elle mettait sous ses bras des paquets de lys comme des paquets de roseaux. Lorsqu'elle fut de nouveau chargée, elle remonta au pavillon jeté à côté des roses, les violettes, les œillets, les quarantaines, les belles de nuit, les héliotropes, les lys. Et sans reprendre haleine, elle redescendit. Cette fois, elle se rendit à ce coin mélancolique qui était comme le cimetière du parterre. Un automne brûlant y avait mis une seconde poussée des fleurs du printemps. Elle s'acharna surtout sur des plates-bandes de tubéreuses et de jacinthes, à genoux au milieu des herbes, menant sa récolte avec des précautions d'avare. Les tubéreuses semblaient pour elle des fleurs précieuses qui devaient distiller de goutte à goutte de l'or, des richesses, des biens extraordinaires. Les jacinthes, toutes perlées de leurs grains fleuris, étaient comme des colliers dont chaque perle allait lui verser des joies ignorées aux hommes. Et bien qu'elle disparût dans la brassée de jacinthes et de tubereuses qu'elle avait coupées, elle ravagea plus loin encore un champ de pavots. Elle trouva moyen de raser encore un champ de soucis. Par-dessus les tubereuses, par-dessus les jacinthes, les soucis et les pavots s'entassèrent. Elle revint en courant se décharger dans la chambre au plafond bleu, veillant à ce que le vent ne lui volât pas un pistil. Elle redescendit. Qu'allait-elle cueillir maintenant? Elle avait moissonné le parterre entier. Quand elle se haussait sur les pieds, elle ne voyait plus, sous l'ombre encore grise, que le parterre mort, n'ayant plus les yeux tendres de ses roses, le rire rouge des œillets, les parfums parfumés des héliotropes. Pourtant, elle ne pouvait remonter les bras vides. Et elle s'attaqua aux herbes, aux verdures. Elle rampa la poitrine contre le sol, cherchant dans une suprême étreinte de passion à emporter la terre elle-même. Ce fut la moisson des plantes odorantes, les citronnelles, les menthes, les verveines, dont elle emplissait sa jupe. Elle rencontra une bordure de baume et n'en laissa pas une feuille. Elle prit même deux grands fenouils qu'elle jeta sur ses épaules, ainsi que deux arbres. Si elle avait pu, entre ses dents serrées, elle aurait emmené derrière elle toute la nappe verte du parterre. Puis, au seuil du pavillon, elle se tourna, elle jeta un dernier regard sur le paradou. Il était noir. La nuit, tombée complètement, lui avait jeté un drap noir sur la face. Et elle monta pour ne plus redescendre. La grande chambre bientôt fut parée. Elle avait posé une lampe allumée sur la console, elle triait les fleurs amoncelées au milieu du carreau. Elle en faisait de grosses touffes qu'elle distribuait à tous les coins. D'abord derrière la lampe, sur la console, elle mit les lys. Une haute dentelle qui attendrissait la lumière de sa pureté blanche. Puis, elle porta des poignées d'œillets et de quarantaine sur le vieux canapé dont l'étoffe peinte était déjà semée de bouquets rouges fanés depuis 100 ans. Et l'étoffe disparut, le canapé allongea contre le mur un massif de quarantaine hérissé d'œillets. Elle rangea alors les 4 fauteuils devant l'alcôve. Elle emplit le premier de soucis, le second de pavots, le 3e de belles de nuit, le 4e d'héliotropes. Les fauteuils noyés, ne montrant que des bouts de leurs bras, semblaient des bornes de fleurs. Enfin, elle songea au lit. Elle roula près du chevet une petite table sur laquelle elle dressa un tas énorme de violettes. Et à large brassée, elle couvrit entièrement le lit de toutes les jacinthes et de toutes les tubereuses qu'elle avait apportées. La couche était si épaisse qu'elle débordait sur le devant, aux pieds, à la tête, dans la ruelle, laissant couler des traînées de grappes. Le lit n'était plus qu'une grande floraison. Cependant, les roses restaient. Elle les jeta au hasard un peu partout. Elle ne regardait même pas où elles tombaient. La console, le canapé et les fauteuils en reçurent. Un coin du lit en fut inondé. Pendant quelques minutes, il plut des roses à grosses touffes, une averse de fleurs lourdes comme des gouttes d'orage qui faisaient des mares dans les trous du carreau. Mais le tas ne diminuait guère. Elle finit par en tresser des guirlandes qu'elle pendit au mur. Les amours de plâtre qui polissonnaient au-dessus de l'alcôve eurent des guirlandes de roses au cou, au bras, autour des reins. Leur ventre nu, leur cul nu furent tout habillés de roses. Le plafond bleu, les panneaux ovales encadrés de nœuds de ruban couleur chair, les peintures érotiques mangées par le temps se trouvèrent tendues d'un manteau de rose, d'une draperie de rose. La grande chambre était parée. Maintenant, elle pouvait y mourir. Un instant, elle resta debout, regardant autour d'elle. Elle songeait. Elle cherchait si la mort était là. Et elle ramassa les verdures odorantes, les citronnelles, les menthes, les verveines, les baumes, les fenouilles. Elle les tordit, les plia, en fabriqua des tampons à l'aide desquels elle allait boucher les moindres fentes, les moindres trous de la porte et des fenêtres. Puis elle tira les rideaux de calicot blanc cousus à gros points. Et muette, sans un soupir, elle se coucha sur le lit, sur la floraison des jacinthes et des tubéreuses. Là, ce fut une volupté dernière. Les yeux grands ouverts, elle souriait à la chambre. Comme elle avait aimé dans cette chambre. Comme elle y mourrait heureuse. À cette heure, rien d'impur ne lui venait plus que des amours de plâtre. Rien de troublant ne descendait plus des peintures où des membres de femmes se vautraient. Il y avait sous le grand plafond bleu que le parfum étouffant des fleurs. Et il semblait que ce parfum ne fût autre que l'odeur d'amour ancien dont l'alcôve était toujours restée tiède. Une odeur grandie, centuplée, devenue si forte qu'elle soufflait l'asphyxie. Peut-être était-ce la laine de la dame morte là, il y avait un siècle. Elle se trouvait ravie à son tour dans cette haleine. Ne bougeant point, les mains jointes sur son cœur, elle continuait à sourire. Elle écoutait les parfums qui chuchotaient dans sa tête bourdonnante. Il lui jouait une musique étrange de senteur qui l'endormit lentement, très doucement. D'abord, c'était un prélude gai, enfantin. Ses mains qui avaient tordu les verdures odorantes, exhalé l'âpreté des herbes foulées, lui contaient ses courses de gamine au milieu des sauvageries du paradou. Ensuite, un chant de flûte se faisait entendre, de petites notes musquées qui s'égrenaient du tas de violettes posées sur la table près du chevet. Et cette flûte, brodant sa mélodie sur la laine calme, l'accompagnement régulier des lys de la console, chanter les premiers charmes de son amour, le premier aveu, le premier baiser sous la futaie. Mais elle suffoquait davantage. La passion arrivait avec l'éclat brusque des œillets, à l'odeur poivrée dont la voix de cuivre dominait un moment tous les autres. Elle croyait qu'elle allait agoniser dans la phrase maladive des soucis et des pavots qui lui rappelaient les tourments de ses désirs. Et brusquement, tout s'apaisait. Elle respirait plus librement. Elle glissait à une douceur plus grande, bercée par une gamme descendante des quarantaines, se ralentissant, se noyant jusqu'à un cantique adorable des héliotropes, dont les haleines de vanille disaient l'approche des noces. Les belles de nuit piquaient çà et là un tri discret. Puis, il y eut un silence. Les roses languissamment firent leur entrée. Du plafond coulèrent des voix, un cœur lointain. C'était un ensemble large qu'elle écouta au début avec un léger frisson. Le cœur s'enfla, elle fut bientôt toute vibrante des sonorités prodigieuses qui éclataient autour d'elle. Les noces étaient venues, les fanfares des roses annonçaient l'instant redoutable. Elle, les mains de plus en plus serrées contre son cœur, pâmée, mourante, haletée. Elle ouvrait la bouche, cherchant le baiser qui devait l'étouffer, quand les jacinthes et les tubereuses fumèrent, l'enveloppèrent d'un dernier soupir, si profond qu'il couvrit le cœur des roses. Albine était morte dans le hoquet suprême des fleurs.